quelque chose à nous apprendre aujourd'hui. Ou plutôt, comme il est évident que Dieu nous donne sa parole pour notre instruction et notre croissance, est-ce que nous sommes capables de recevoir le message contenu dans ces livres? La réponse de cette question dépend évidemment de chacun de nous, car il y a un effort personnel à faire. Il nous faut en effet essayer de comprendre le contexte. Il nous faut essayer d'être humble à propos, par exemple, des critères de notre propre époque. Il nous faut essayer de chercher les principes ou les motivations derrière des actes que parfois nous avons du mal à accepter. Si nous nous donnons cette peine, Dieu récompensera nos efforts et nous accordera des richesses pour notre vie chrétienne, tant individuelle que communautaire. N'oublions donc pas le rappel que l'apôtre Paul adresse à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Prions alors constamment que Dieu renouvelle notre intelligence afin que nous soyons équipés comme Paul l'entend et comme Dieu l'entend aussi. C'est Anne qui va lire la première partie du passage d'aujourd'hui, donc chapitre 3 du livre des Juges et le premier passage, les versets 7 à 11.
Les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et rendirent un culte au Dieu Baal et à Chéra. L'Éternel se mit en colère contre Israël, et il les livra au pouvoir de Cushan, Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Les Israélites lui furent assujettis pendant 8 ans. Ils implorèrent l'Éternel, et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Othniel, fils de Kenaz, qui était le frère cadet de Caleb. Et Othniel les délivra. L'Esprit de l'Éternel vint sur lui, et il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre Cushan et Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et l'Éternel lui donna la victoire sur lui. Après cela, la région fut en paix pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kenaz, mourut.
Merci Anne. Cette première partie du livre des Juges que nous venons de lire introduit très sommairement Othniel, le premier des 12 juges mentionnés dans ce livre. Ce passage sert avant tout à nous présenter le schéma général de l'ensemble de notre livre, et donc son message essentiel. En effet, le livre des Juges est une série de cycles dont nous avons ici le premier exemple. Le cycle commence par le péché du peuple de Dieu, ce qui provoque naturellement et spirituellement la colère de Dieu. Dieu envoie un oppresseur, le plus souvent l'un des peuples vivant à proximité. Alors, tout ou une partie du peuple d'Israël lui est soumis et subit des exactions pendant une période de temps que l'auteur indique. Ensuite, le peuple d'Israël finit par prendre conscience de sa situation, peut-être de son péché. Il crie à Dieu, en se repentant, parfois bien, imparfaitement, et il implore sa délivrance. Alors, Dieu suscite au sein de son peuple un sauveur, appelé juge, qu'il équipe et revêt souvent, comme ici, de son Saint-Esprit. Le peuple est délivré de l'oppresseur et connaît souvent une période de paix et d'apparente fidélité envers Dieu, dont l'auteur du livre des Juges nous indique la durée. Ce schéma général, que nous trouvons déjà à nouveau dans cette deuxième partie du chapitre 3, renferme des enseignements qui sont les enseignements de tout le livre. Dieu nous rappelle, entre autres, la facilité, la commodité de la voie du mal, du péché. Il est naturellement plus difficile de choisir la justice et l'obéissance que l'infidélité et l'impureté. Faire comme tout le monde est si facile et semble souvent conduire au confort, au plaisir. En préparant ce message, j'ai pensé par exemple à cette très récente réaction de foule suite aux violences terribles perpétrées à Paris. Si un disciple de Jésus-Christ n'a aucune difficulté à condamner cette méthode de l'assassinat sauvage et arbitraire, peut-il pour autant s'associer à des hommes qui ne vivent que par la moquerie, l'insulte et la vulgarité, par les violences de la parole, en somme? Peut-il vraiment affirmer, avec beaucoup d'autres Français, qu'il est Charlie? Or, le peuple de Dieu est souvent appelé à faire partie d'une minorité qui s'élève contre la majorité, prête à sacrifier son confort et son bien-être. Nous voyons ensuite la tendance terrible chez l'homme à oublier Dieu dès que les choses vont bien. Moïse avait averti le peuple de façon très claire. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Exhortation répétée maintes fois, notamment dans le livre du Deutéronome. Exhortation, hélas, rapidement oubliée. Ce danger nous guette tout autant aujourd'hui. Combien de fois constatons-nous que c'est l'Église en lutte contre toutes sortes de difficultés, cette Église au Niger, par exemple, qui se montre plus vigoureuse, plus vivante, que celle qui connaît la liberté et la prospérité. Le livre des Juges souligne ensuite cette vérité essentielle que pour atteindre le salut, il faut d'abord se repentir. Venir à Dieu tel que je suis ne signifie nullement que je peux rester tel que je suis. Pour revenir vers Dieu, je dois résolument tourner le dos à ma vie passée, à ce que j'étais, à ce que je faisais, implorer sincèrement, profondément l'aide. Le secours de Dieu signifie que j'abandonne mes propres solutions. Le livre des Juges nous révèle aussi le caractère essentiel d'un modèle spirituel et d'une autorité spirituelle. Lorsque Israël tient bon et honore son engagement pendant un certain temps, c'est que l'influence, l'exemple et l'autorité d'un homme ou d'une femme, dans le cas de Déborah, sont assez présents, assez forts pour le maintenir sur le bon chemin. Nous, peuple chrétien, nous avons certes en permanence l'autorité et l'exemple parfait de Jésus-Christ à tout moment. Mais Dieu savait que cet exemple et cette autorité nous paraîtraient parfois trop éloignés ou trop élevés. C'est une des raisons pour lesquelles il a institué l'Église, à l'intérieur de laquelle nous devons trouver le cadre d'une bonne autorité spirituelle, et être des exemples spirituels, les uns pour les autres. Enfin, n'oublions pas tout de même que le schéma général que je vous ai détaillé ici doit continuer surtout à révéler celui qui inspire toutes les Écritures. Le cycle présenté ici, que nous voyons se reproduire maintes fois tout au long du livre, révèle particulièrement la souveraineté absolue de Dieu, pour qui les nations les plus puissantes et parfois les plus païennes peuvent servir d'instrument. Nous voyons la justice de Dieu, du Dieu trois fois saint, qui ne peut laisser le péché impuni et qui montre dans sa grâce le sérieux du péché, dont les conséquences sont bien réelles. Nous voyons la détermination de Dieu à enseigner son peuple, à ne pas le laisser s'égarer longtemps dans la séduction des mensonges de l'ennemi. Nous voyons la grande compassion de l'Éternel, sa patience et sa fidélité dans l'exercice du pardon qui dépasse aujourd'hui notre entendement et qui était aussi incompréhensible à l'époque des juges. Maintenant, en dehors de ces leçons générales de ce schéma, leçons qui sont déjà bien riches, est-ce que le récit d'Othniel, premier juge, ou les exemples des autres juges, renferment d'autres détails, d'autres enseignements particuliers? Bien souvent, c'est le cas. Même ce premier récit, si court, si bref, nous annonce déjà que, par exemple, pour Israël, historiquement et géographiquement, le danger viendra souvent de l'Orient. Peut-être une autre raison pour laquelle les mages sont venus d'Orient, hein, pour rappeler que des choses ont changé, en passant par la Mésopotamie. Mais ce récit rappelle avant tout que la véritable origine du danger est l'idolâtrie du peuple, représentée ici sous les traits de Baal et d'Ashira, idoles les plus souvent citées dans le livre. Le récit nous enseigne aussi que l'histoire, et ça, aujourd'hui dans nos écoles et dans nos livres d'histoire et à la télévision, quand il y a des émissions d'histoire, nous oublions souvent, l'histoire est là pour nous instruire. L'historien ici, hébraïque, n'hésite pas à déformer un tout petit peu, comme le faisaient sans doute les Israélites à cette époque, le nom de l'oppresseur, appelé désormais, c'est le nom que nous avons dans le texte, Kushan Rishéataïm, traduit Kushan le doublement méchant. Kushan le doublement méchant, soulignant ainsi que notre véritable ennemi, c'est le mal. Ce n'est pas un roi quelconque. Par le choix d'Othniel, comme premier des 12 juges, Dieu nous montre qu'il est normal que le choix d'un chef pour le peuple de Dieu se fonde sur le témoignage de sa vie. On n'a pas souvent l'histoire des juges, d'où ils viennent. Mais d'Othniel, nous savons certaines choses, comme de Samuel plus tard, ou encore de Samson. Othniel est le neveu de Caleb, un des deux espions fidèles. Et Othniel, vous vous rappelez peut-être, dans Josué 15, à partir du verset 15, Othniel s'était déjà distingué lors de la prise de la ville de Kiriath Sefer, ville tenue par des géants. Or, c'est Othniel qui n'a pas hésité à s'attaquer à ces géants et à les battre. Enfin, le court récit de ce premier juge nous informe que le peuple de Dieu était encore relativement uni, puisque l'oppression du roi de Mésopotamie, oppression sans doute ressentie avant tout sur les tribus du nord de la Palestine, est renversée grâce à un juge appelé du Grand Sud. Othniel était tout au sud du pays. Dans un livre qui souligne trop souvent les divisions du peuple et une cohésion très limitée, très locale, cet exemple-là est plutôt rafraîchissant, et nous montre sans doute, ne serait-ce que par sa brièveté, que les victoires du peuple viennent plus vite quand il rejette l'individualisme et qu'il s'unit pour servir Dieu. maintenant, après Othniel, Éhoud. Ce deuxième juge nous transmet les mêmes enseignements généraux que le premier, révélant le même cycle chez le peuple, la même justice, la même miséricorde de la part de l'Éternel. Mais qu'en est-il des enseignements très particuliers? Anne va nous lire les versets 12 à 30.
Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. À cause de cela, l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, et le dressa contre Israël. Eglon s'allia aux Ammonites et aux Amalécites, et ils attaquèrent les Israélites, les battirent et s'emparèrent de la ville de Canaan. Pendant 18 ans, les Israélites furent assujettis à Eglon, roi de Moab. Alors, ils implorèrent l'Éternel, et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Éhoud, fils de Guéra, de la tribu de Benjamin, un homme qui était gaucher. Les Israélites le chargèrent de porter le tribut à Eglon, roi de Moab. Éhoud se fabriqua une épée à deux tranchants d'environ 50 cm de long, et il la saignit sous ses vêtements le long de sa cuisse droite. Il alla remettre le tribut à Eglon, roi de Moab, qui était très gros. Lorsqu'il eut fini de présenter le tribut, il renvoya les hommes qu'il avait apportés. Arrivé aux idoles de pierre à côté de Gilgal, il revint sur ses pas et dit au roi : Majesté, j'ai un message secret à te communiquer. Le roi ordonna à tous ceux qui se tenaient autour de lui de le laisser, et tous ses familiers se retirèrent. Alors, Éhoud s'approcha du roi qui était assis dans la chambre haute qu'il s'était réservée sur la terrasse au frais. Éhoud lui dit : J'ai pour toi un message de Dieu. Le roi se leva de son siège, de sa main gauche, et Éhoud saisit l'épée qu'il portait sur sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre du roi. La poignée elle-même pénétra après la lame, et la graisse se referma sur la lame, car Éhoud laissa l'arme dans le ventre du roi. Puis il sortit par le vestibule après avoir fermé les portes de la chambre haute à clé derrière lui. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi revinrent et ils constatèrent que les portes de la chambre haute étaient fermées à clé. Ils attendirent, se disant que le roi était en train de faire ses besoins dans la chambre d'été. Ils attendirent un bon moment. Enfin, ne sachant plus que penser, et comme ils n'ouvraient toujours pas les portes, ils prirent la clé et ouvrirent le mur. Et voici que leur maître était étendu à terre, mort. Pendant qu'ils s'étaient ainsi attardés, Éhoud s'était échappé. Il dépassa les idoles de pierre et s'enfuit vers Séra. Dès qu'il fut arrivé là, il sonna du cor dans les montagnes d'Éphraïm. Les Israélites descendirent des collines et il se mit à leur tête. Suivez-moi, leur dit-il, car l'Éternel vous donne la victoire sur vos ennemis, les Moabites. Ils le suivirent donc et ils occupèrent les lieux du Jourdain pour couper le passage aux Moabites, ne laissant personne traverser la rivière. Ils tuèrent ce jour-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes et aguerris, et ils ne laissèrent aucun rescapé. Moab fut affaibli à partir de là par les Israélites, et la région connut la paix pendant 80 ans. Après Éhoud vint Shamgar, fils d'Anath. Il tua 600 Philistins avec un million à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël.
Deux juges, avec très peu de détails, et un au milieu, où on a des détails qui, pour certaines lectures, sont parfois un peu gênants, difficiles à lire. Quel héros étrange, ce Éhoud, et quel détail graphique! En tout cas, cela nous confirme, pour nous, qu'il s'agit bien d'un récit authentique. Personne n'inventerait de tels détails. Dans ce passage-là, il y a une insistance toute particulière sur la souveraineté de Dieu. C'est lui, notamment, qui fortifie le bras du roi de Moab afin de l'utiliser comme le bâton de correction pour son peuple. Ce qui nous rappelle que c'est bien lui qui reste maître des situations difficiles dans lesquelles nous pouvons nous trouver, qui les a même voulues afin que nous revenions à lui. Comptions sur lui, apprenions à prendre des décisions difficiles, acceptions d'abandonner notre train-train quotidien pour le servir. Ici, sa souveraineté est encore soulignée dans le fait qu'il a créé Ehud gaucher. Ou peut-être, puisque dans le texte ce n'est pas très clair, qu'il ne peut absolument pas se servir de sa main droite. C'est-à-dire qu'il a peut-être qu'un seul bras, ce qui expliquerait pourquoi Eglon, plus tard, commet la bêtise de laisser partir tous ses serviteurs. Qu'est-ce qu'un infirme peut bien me faire? Aucun danger. Donc Dieu, dans sa souveraineté, a créé Ehud ainsi, et il décide de se servir de ce qui était pour l'époque, même s'il était simplement gaucher, eh bien à cette époque c'était considéré comme un handicap. Un gaucher était un handicapé. C'est un peu différent aujourd'hui, mais parfois, toujours pas facile pour les gauchers, quelquefois. Et Dieu veut montrer sa souveraineté en utilisant cette faiblesse. Ce qui nous rappelle, n'est-ce pas, ce passage de 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, où Paul dit lui-même que Dieu montre sa puissance à travers notre faiblesse. C'est Dieu, évidemment, qui a veillé à ce que Ehud soit également choisi pour aller porter le tribut d'Israël. Et c'est Dieu encore qui a donné à cet Ehud son intelligence et son audace. Cette souveraineté de Dieu est bien entendu un enseignement permanent de la parole. Il est normal d'en voir les preuves dans les récits historiques. Ce qui est plus particulier, plus spécifique ici, c'est l'action prise par l'instrument choisi de ce pouvoir souverain. Action qui est particulièrement instructive pour nous. Nous ne savons pas comment Ehud a été humainement désigné. Nous ne savons pas si, avant cette action, les Israélites avaient déjà reconnu en lui un chef ou un juge. Lui, en tout cas, peut-être au moment où il a été choisi pour porter les tribus, est convaincu que Dieu veut se servir de lui. Ce que l'auteur du récit confirme en soulignant que c'est Dieu qui l'a suscité. Dieu a suscité Ehud. Comprenant ce choix de Dieu, Ehud se donne tout entier à sa mission. Et il y emploie non seulement son intelligence, mais aussi sa foi, son audace, sa capacité à accepter les pires situations, même son handicap. Son intelligence trouve le plan pour cacher son épée, courte, sans doute sans garde, ce qui explique le détail de l'épée enfoncée. S'il y avait la garde, ça aurait été plus difficile à cacher. Personne à l'époque ne pensait qu'un épée pouvait se tenir du côté droit, parce que tout le monde était droitier, donc l'épée était à gauche. En plus, il l'a peut-être attaché à l'intérieur de sa cuisse et non pas à l'extérieur. En tout cas, c'était très bien caché. Évidemment, il portait la tunique, donc personne ne pouvait le voir. C'était pas un pantalon avec une bosse du tout. Donc, il utilise son intelligence et sa ruse lui permet aussi de désarmer la méfiance d'Aiglon. Il lui apporte d'abord le présent. Le tribut, sans doute, beaucoup d'animaux, des fruits, enfin le tribut que le peuple devait apporter, les impôts en gros. Et ensuite, il revient avec un message secret. Eglon veut entendre le message secret. Et il renvoie ses serviteurs. Ensuite, on voit la conviction. Alors, ce sont des détails que certains n'aiment pas lire, mais la conviction d'Ehud, se voit dans la manière d'enfoncer cette épée avec une telle force qu'il tue le roi sur le coup. Enfin, il a besoin de s'échapper, de rassembler les tribus maintenant pour leur dire, voilà, ils sont en désarroi, les Moabites, c'est le moment de les battre. Alors comment s'échapper? Eh bien, sa ruse lui montre comment retarder les poursuites en fermant la porte à clé de l'intérieur, même si cela l'oblige à sortir de la maison, lui, Ehud, par la même voie que les excréments. Parce qu'apparemment, c'est par là qu'il est sorti. Audace et intelligence sont donc liées dans la prévision de la panique des Moabites, dans l'appel aux armes et dans le choix du lieu de la victoire au guet du Jourdain. Est-ce que le peuple d'Éphraïm allait répondre à l'appel? Les Éphraïmites viendraient-ils assez vite pour intercepter les Moabites? Seraient-ils assez nombreux pour se mesurer à la forte garnison que les Moabites avaient sur place? Foi, intelligence, détermination sont unies en Ehud. Décidé à obéir à l'appel de Dieu, il fait fi de sa faiblesse. Et reconnaît que si Dieu le veut, lui, Ehud, il le veut tout entier, avec toutes les qualités dont il l'a doté. Il nous donne, Ehud, finalement, l'exemple de ce que nous devons comprendre par l'expression « venir à Jésus-Christ ». C'est un engagement véritable, total, qui ne laisse rien en réserve. Ce qui ne veut pas dire, cependant, que nous devons nécessairement admirer les méthodes choisies. Un assassinat par traîtrise, commis de sang-froid, suivi du massacre de 10 000 soldats en fuite, le serviteur de Dieu reste responsable des moyens qu'il emploie. Il faut cependant se rappeler que la tyrannie et l'oppression sont en soi des choses contestables et détestables, et qu'il faut parfois des méthodes fortes pour les renverser. La leçon spécifique d'Ehud pour nous aujourd'hui est néanmoins avant tout que lorsque nous prions Dieu, lorsque nous crions à lui pour qu'il nous délivre de telle ou telle situation, premièrement, nous pouvons être sûrs que Dieu est un Dieu de compassion, prêt à répondre aux cris de détresse de son peuple, même, et je crois que c'est le cas ici, même quand la repentance de ce dernier est bien imparfaite. Mais lorsque nous crions à Dieu, implorons son aide, nous devons aussi accepter la possibilité que sa solution à lui peut passer par nous, peut faire appel à nos dons et même à toutes nos faiblesses. Alors, quelle conclusion tirer de ce chapitre 3? Premièrement, pour agir au nom de Dieu, nous devons commencer par reconnaître le mal, l'existence du mal en nous, autour de nous, contre lequel il convient de lutter. Deuxièmement, nous devons être prêts à agir, y compris de façon douloureuse ou sacrificielle, pour éliminer ce mal, en nous servant de tous nos dons, de tous les moyens inattendus que Dieu met à notre disposition. Si nous avions besoin de nous en convaincre, le tout dernier verset qu'Anna a déjà lu du chapitre 3, le verset 31 qui parle de Shamgar, suffirait comme illustration. Quand les lances et les épées manquent, un gaucher avec un poignard et un bouvier courageux avec son aiguillon à bœuf fera l'affaire. Les juges choisis tout au long de ce livre, dans la plupart des cas, sont bien faibles, bien imparfaits, pas forcément bien armés. Mais cela montre et doit nous montrer tout simplement que c'est Dieu qui sauve, quels que soient les instruments ou les agents qu'il emploie. Othniel, Ehud et Shamgar nous enseignent par leurs limites et leurs failles que notre regard doit toujours se porter vers le sacrifice de Jésus-Christ, seul juge parfait, seul juge capable de délivrer les hommes non seulement de leurs difficultés du moment, mais de l'origine de ces difficultés, le mal de leur propre péché. Enfin, pour revenir une dernière fois à nos juges du chapitre 3, nous voyons que le serviteur choisi par Dieu, ayant compris qu'il faut agir, ayant fait son plan, doit aller jusqu'au bout, être prêt à se sacrifier, à ne pas se décourager, à être un exemple de foi, d'obéissance, de courage pour d'autres membres du peuple. Dans notre cas, pour d'autres chrétiens. N'oublions pas, pour conclure, que pour un vrai disciple, ce n'est pas l'intention qui compte. Vous avez sans doute entendu ça bien souvent. Ah, je voulais faire telle chose, mais je ne l'ai pas fait. Oh, ben c'est l'intention qui compte. La parole dit l'inverse. Ce n'est pas l'intention qui compte. C'est l'accomplissement. Les intentions de l'Église de Thyatire dans le Nouveau Testament étaient bonnes. Mais pour connaître l'approbation sans réserve et la bénédiction du Seigneur, elle avait un pas de plus à faire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Au vainqueur, au celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Nous venons de voir des héros parfois étranges que tu as choisis dans ta souveraineté. Ces juges nous encouragent à aller jusqu'au bout de notre foi et nous encouragent dans le sens qu'ils sont imparfaits comme nous. Et pourtant, tu t'en sers. Ils nous encouragent aussi parce qu'ils sont la réponse de ta compassion lorsque ton peuple souffre. Ils nous encouragent surtout, Seigneur, parce qu'ils nous rappellent que c'est toi qui sauves. C'est toi qui interviens à travers des instruments imparfaits pour ramener ton peuple vers toi. Lui rappeler que toi seul, par ta fidélité, dans ton amour, par ton sacrifice, peux le sauver de son propre péché. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Qu'il puisse nous aider à avancer sur le chemin de foi jusqu'au bout, avec les dons et même les faiblesses que tu veux encore utiliser au sein de ton peuple et pour la gloire de Jésus-Christ. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen.